Il est 9h41, démarrage en trompe de l'Instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Qu'est devenue l'interview politique? D'un côté, le QCM, le pour, le contre, le oui, le non, la question cantonnée au minimum de l'efficacité. De l'autre, la tentation de l'intime. Cette année se multiplient les divans cathodiques où nos candidats sont invités à se confesser. Bref, quelles sont les ornières et les défis du questionnement politique dans un paysage saturé où les journalistes se font plus taper dessus que les élus? Et oui, Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Sonia.
RTL, le grand journal, Europe 1, France Info, depuis lundi matin. Pour le rendez-vous politique de 8h30, vous les avez tous interviewés.
Tous.
Où n'avez-vous pas encore travaillé, Jean-Michel Apathy?
Oh, j'ai fait un paquet de rédactions incroyables et je sais pas, j'ai dû faire 10-12 rédactions et il n'y a qu'un patron de journaux qui m'a foutu dehors.
C'est lequel?
Serge Julie. Ouais, c'est le seul.
RMC, BFM TV, pas encore.
Non, alors j'ai mis un peu les pieds, puis Europe 1 m'a interdit de le faire, mais c'est j'aurais ça. Adoré. C'est, voilà. Mais j'aime beaucoup les rédactions. Donc,
avec nous également sur le plateau de l'Instant M, Gilles Bornstein, bonjour.
Bonjour Sonia.
Vous étiez rédacteur en chef de Des Paroles et des Actes, la grande émission politique de France 2 qui a été très secouée par ses invités. Vous devenez éditorialiste politique de la nouvelle chaîne info du service public. Aux côtés de Jean-Michel Apathy à 8h30, tout comme Guy Birenbaum dans la matinale de Fabienne Synthèse, ce sera un nouveau genre d'interview.
Vous avez cité tout le monde, c'est
à quatre voix.
À quatre voix.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Alors chaque jeudi, c'est une nouveauté. L'Instant M vous fait désormais découvrir une revue papier. Elles sont des dizaines à se lancer en kiosque et en librairie. C'est une singularité, c'est une grande, grande richesse du marché français. On n'en parle pas assez. Nous, on va appeler ça l'Instant Papier. Et pour commencer, topo, toute l'actualité en bande dessinée pour les moins de 20 ans.
Avec les événements de Charlie, qui ont été un accélérateur évident, dramatique, on s'est rendu compte qu'il fallait faire une revue à l'adresse des jeunes avec l'idée de la pédagogie du dessin. Qu'est-ce que c'est qu'un dessin de presse? Comment on lit une bande dessinée? À quoi sert une bande dessinée? Le vocabulaire de la bande dessinée? Et puis surtout, se servir de ce vocabulaire pour raconter l'actualité. Donc c'est ça, les origines de Topo. Le grand reportage, les youtubeurs, une usine à clics, à fric.
Page 78, témoignage. Je n'avais jamais quitté la Syrie.
Page 52, la science infuse, tous à poil.
Et page 72, tranche de l'art, le derrière de la Joconde. L'idée de Topo, c'est d'attiser la curiosité politique des adolescents, c'est de développer leur sens critique. Donc on a des sujets très variés. Sur la société, sur la politique, sur l'économie, avec des entrées assez simples. On s'appuie sur les connaissances des 4e, 3e, en faisant des sujets assez longs. L'idée, c'est de réinscrire l'information dans une continuité historique pour lui donner plus de profondeur. Nous, on propose 144 pages de bande dessinée tous les 2 mois, ça prend énormément de temps, et le temps produit finalement une information réfléchie.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une revue engagée?
Oui, on a un ton engagé, pas militant, mais engagé. De toute façon, l'ambition de Topo, c'est que le lecteur devienne un acteur du monde. Donc à partir de là, on a un ton engagé.
Et voilà, Topo au micro d'Anne-Cécile Perrin. Ce qui frappe l'œil dans Topo, c'est le niveau graphique et la variété des BD qui sont signés de grands dessinateurs. Topo, 12,50 €. Moi, je serais prof. Je me précipiterais pour les élèves.
Il y avait M. Gollnisch qui se présentait contre Marine.
Marine Le Pen.
Et Marine a été élue.
Marine Le Pen, oui.
Oui, vous faites bien de préciser le nom. D'abord, ça vous illumine le regard.
Eh bien, écoutez, j'en suis ravi.
Voyez, Marine Le Pen a un effet euphorisant sur Monsieur Apathy.
Eh ben,
ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a des caméras comme ça.
Tout le
monde pourra le constater.
Nous sommes d'accord.
Eh ben oui, maintenant, il y a des caméras. France Info est aussi devenue une chaîne de télévision. Elle s'est lancée par surprise hier soir à 18h sur le web. Canal 27, tout à l'heure à 20h. Et votre rendez-vous politique, donc, tous les matins, 8h30. On est dans la matinale de Fabienne Synthèse. À vos côtés, Gilles Bornstein, je l'ai dit. Vous étiez rédacteur en chef de Des Paroles et des Actes. Vous serez régulièrement sur la chaîne Info pour analyser l'actualité politique. Et puis, Guy Berenbaum. Si je vous ai fait venir tous les deux ce matin, c'est pour s'interroger s'interroger sur l'évolution de ce questionnement politique. Il semble que la communication politique a définitivement basculé, que les politiques se sont emparés des réseaux sociaux, qu'ils s'adressent en direct aux citoyens et qu'ils en profitent pour taper sur les journalistes politiques. Jean-Michel Apathy.
Oui, je pense que effectivement, les journalistes politiques qui n'ont sans doute jamais été très populaires sont depuis quelques années. C'est un peu, ça commence avec Sarkozy. Mm-hmm. Un peu dans l'œil du cyclone, en quelque sorte, nous serions le maillon faible de la démocratie en n'interrogeant pas avec suffisamment de précision. C'est pas la connivence qui est en cause, mais avec suffisamment de précision et de professionnalisme des menteurs professionnels. Et donc ça, je pense que le public le reproche. Et peut-être que les responsables politiques se saisissent des réseaux sociaux, mais ils n'ont pas encore retrouvé le moyen, malgré tout, de se passer des journalistes. Ils ont toujours besoin d'un médiateur pour apparaître crédible.
On va y revenir, Gilles Bornstein. Le débat, la question n'est plus du tout à la connivence. On a l'impression que les politiques, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, se sont, comment dit, mis du côté de la méfiance populaire pour attaquer les médias.
Mmh. Oui, mais les réseaux sociaux dont vous parlez, c'est à double tranchant parce que ça a été aussi compliqué pour eux. Avant, les menteurs professionnels dont parlait Jean-Michel pouvaient de fait dire à peu près ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, avec le fact-checking, avec les réseaux sociaux,
vite, hein.
Si vous dites une connerie à l'antenne, vous êtes ramassé
une bêtise.
Excuse-moi Jean-Michel. Si vous dites une bêtise à l'antenne, les réseaux sociaux vous reprennent en 5 minutes. Donc ça les oblige aussi
à être prudents.
Ne pas dire n'importe quoi. Alors c'est à double tranchant. Ils sont prudents, mais parfois ils manient davantage la langue de bois.
Mais en même temps, admettez l'un et l'autre que refuser de s'exprimer sur tel ou tel média, refuser les interviews de tel ou tel intervieweur politique, c'est devenu un élément de communication.
C'est une façon
de dire aux citoyens, vous voyez, on ne fait pas partie de la caste.
Eux, ils font
partie de la caste, pas nous, Jean-Michel Apathy.
Alors, il n'y a pas beaucoup de refus. Marine Le Pen peut exprimer des refus, mais
oui,
après, il n'y en a pas beaucoup. Si, Jean-Luc Mélenchon aussi, qui a des refus cycliques. Moi, par exemple, quand j'étais à RTL, à un moment, j'ai été boycotté par Jean-Luc Mélenchon, bon, mais il y en a quand même assez peu, malgré tout. Hein. On ne peut pas dire que ce soit la majorité, mais c'est vrai qu'il y a un rapport qui est assez antagoniste et d'une certaine manière, c'est bien. Voilà, comme ça, écoutez, si on ne nous reproche pas d'être amis et complices des responsables politiques, c'est déjà bien.
Tout va bien.
Oui.
Marine Le Pen claque la porte de Des Paroles et des Actes, dont vous étiez le rédacteur en chef. Et le lendemain, Jean-Michel Apathy sur Europe 1, l'interview par téléphone, vous vous en souvenez aussi.
Ah non, j'ai oublié, tiens.
On m'a traité comme je n'ai, je crois, jamais été traité, avec autant de mépris, avec autant de discourtoisie. Nous sommes là dans un amateurisme total, car j'ai déjà 2h30 d'émission.
Oui, donc si on rajoute des débats supplémentaires, ça va être une émission interminable.
Non, mais écoutez, écoutez, on peut faire ça, mais c'est Cuba, quoi.
Ouais, alors voilà, c'était par téléphone
quoi.
Parce que sinon le son sur Europe 1 est un peu meilleur que ça
d'habitude.
Gilles Bornstein, à l'époque de l'heure de vérité, c'était inimaginable se dédouaner, massacrer l'émission politique pour sauver son image à soi.
Oui, absolument. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, hors antenne, il y a maintenant 100 rendez-vous politiques par semaine. Il y a une centaine de rendez-vous politiques par semaine.
Ah oui, on les a comptés, on va y revenir.
Voilà,
oui.
Les politiques ont davantage le choix.
Une centaine de rendez-vous par
semaine. Alors, l'instant M, c'est retrousser les manches, je peux vous dire. On a bossé. On n'est pas tout à fait en mesure de vous fournir le calcul exact, mais on a cumulé les cases dans lesquelles sont susceptibles d'être invités un politique sur France Inter, Culture, Info, France 2, France 5, Europe 1, RTL, RMC, BFM TV, iTélé, LCI, D8 et Canal+. Je ne compte même pas les interviews filmées du Figaro, par exemple, ou les médias locaux. Il y a une centaine, il y a 92 cases au minimum.
C'est une incitation à l'humilité pour nous.
Mais c'est totalement vertigineux.
L'épuisement de cette
route. Bon, à l'époque de l'heure de vérité, comme vous le disiez, les rendez-vous politiques n'étaient pas infinis. Donc, quand les hommes politiques ou les femmes politiques en avaient un, ils devaient venir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils peuvent davantage jouer la concurrence et se dire, je vais pas à celui-là. C'est pas grave, l'autre sera content de m'avoir le lendemain. Et c'est vrai que nous faisons partie de leur stratégie médiatique et que le fait de, pour elles, boycotter une émission était pour elle un moyen de dire à ses électeurs, vous l'avez dit, vous voyez, moi je suis indépendante.
Alors justement, jouer la concurrence entre les invités et les invitations médias, une centaine de rendez-vous politiques dans le PAF, Jean-Michel Apathy, finalement, combien est-ce qu'il y a de politiques qui s'expriment pour 100 rendez-vous à honorer par
Bonne
semaine
question. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire en fait peut-être une cinquantaine, je ne sais pas, c'est toujours les mêmes qu'on voit,
c'est
évidemment,
ça
bien sûr.
Donc en réalité, ils tournent.
Hier après-midi,
une sorte de manège infernal.
Une attachée de presse m'a appelé pour me proposer quelqu'un dont je serais incapable de vous dire le nom parce que c'est un inconnu. Donc je lui ai dit non, il n'y a pas question que dans l'interview de France Info, on prenne cette personne-là. Et en même temps, je me disais... les seuls qu'on prend, c'est ceux qu'on voit partout.
Alors donc justement, vous êtes à la manœuvre, Jean-Michel Apathy, de ce 8h30 de France Info. Oui. C'est quoi le critère ? Je prends, je prends pas ?
Le critère, c'est quelqu'un qui est dans l'actualité, mm-hmm. ou alors quelqu'un qui a une notoriété. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est l'un ou l'autre.
Gilles Bornstein, sur les 50 dont parle Jean-Michel Apathy, combien était capable de faire des paroles et des actes 2h30 en direct ?
Une dizaine. Une petite vingaine.
Non mais c'est totalement terrifiant, c'est-à-dire qu'il y a une offre pléthorique.
C'était 2h20 de direct.
C'est normal, c'est très dur. Vous n'invitez pas quelqu'un que personne ne connaît, mm-hmm. et dont le discours, fatalement, va être un peu... sans grand intérêt. Vous l'invitez pas dans un média un peu important.
Jean-Michel Apathy.
Donc vous ne lui donnez pas la possibilité non plus d'accéder à des médias importants.
Cette école de formation que sont les chaînes d'info. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a tous vu dans les talks de chaînes d'info les seconds couteaux de la politique.
Grandir,
etc.
Apprendre.
Jusqu'à devenir des premiers couteaux. Voilà, maintenant, il y a plusieurs divisions. Il y a la Ligue 1 et la Ligue 2.
Dans ce tabassage médiatique, comment évolue le questionnement politique ? Manifestement, il y a deux tendances. Est-ce que ce sont deux ornières ? Mais en même temps, comment faire autrement ?
Parce que vous avez repéré les tendances aussi.
Il y a deux tendances. Oui. Alors, je vous propose d'écouter Jean-Jacques Bourdin. Vous vous souvenez, il avait fait trébucher Myriam El Khomri avec une question très précise sur l'accumulation des CDD. Écoutez l'ancien conseiller de la ministre du Travail.
Monsieur Bourdin, d'ailleurs, vous avez participé à ce moment-là d'une aventure qui a été un peu regrettable parce qu'on n'attend pas d'un ministre qui sache répondre.
Qui pose des questions à un ministre.
Vous posez toutes les questions que vous voulez, mais je ne crois pas qu'un ministre ou un politique, mais en général, soit en capacité ou soit en devoir de répondre à un QCM.
Surtout un ministre du Travail, QCM.
On attend de Myriam El Khomri de savoir répondre quelle est l'orientation politique.
Comment voulez-vous dire que c'est un QCM ?
Tendance numéro 1 du questionnement politique. Le burkini pour, contre, Macron a-t-il trahi Hollande ? Oui, non. L'interview politique, à force de chercher la reprise et l'efficacité, est-elle devenue un QCM, comme le dit Pierre Jacquemin, Jean-Michel Apathy ?
Le questionnement politique est guidé par deux choses. L'actualité, mm-hmm. donc le burkini, oui, non. Voilà. À un moment, c'est un débat bête, hein, mais qu'est-ce que vous voulez ?
Ce
sont des maires qui nous l'imposent. Mm-hmm. C'est pas le journalisme qui invente ça.
Et en même temps, le journaliste repose la question de manière bête, oui, non,
non-stop. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça s'appelle le journalisme.
Vraiment ?
Oui, bien sûr.
Le burkini pour contre ? Oui,
pas
non.
Pour contre.
C'est une question de journaliste. Le journaliste ne peut pas faire autrement.
Des maires disent je suis contre. Oui. Le Premier ministre dit ces maires ont raison. Mm-hmm. Et des gens de gauche disent le Premier ministre a tort de soutenir les maires. Donc le journalisme, il fait avec tout ça. Et donc vous en arrivez à la question, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Vous êtes pour les arrêter ? Vous êtes contre les arrêter ? Vous êtes contre le burkini ?
On fait une loi ou on n'en fait pas.
Les journalistes, je le dis souvent, les journalistes ne choisissent pas l'actualité. Les journalistes font avec l'actualité. Parfois l'actualité est intelligente. Parfois elle est dramatique et parfois elle est bête.
La vraie question, Jean-Michel Apathy, c'est quand même ce que font les journalistes de l'actualité, parce qu'ils ne sont pas...
Mais l'actualité s'impose même à vous, Sonia. Vous ne le savez peut-être pas.
L'actualité s'impose. En même temps, on est chacun libre et maître de questions. La vraie question quand même, c'est si le discours politique détaché de l'actu immédiate est devenu un repoussoir.
Non. Il peut y avoir des questions qui sont détachées de l'actualité, mais il faut ça. Alors, ce sont des questions de fond, mais non.
Gilles Bernstein. Mais chacun, parlez devant votre micro maintenant que vous faites de la radio.
Absolument, je parle devant mon micro. Ça dépend des émissions, ça dépend des formats. Oui. On ne fait évidemment pas la même chose quand on a 4, 5 ou 6 minutes.
Dans un 7h50 sur RTL comme le faisait Jean-Michel Apathy.
Exactement.
Et dans un des paroles et des actes.
Dans un des paroles
et
des actes, on avait 2h20. Oui. L'impératif n'est pas le même. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'exercice qu'on va faire avec Jean-Michel est bien. C'est un exercice un peu hybride. Oui. On a 25 minutes. Il ne faut pas se détacher de l'actualité. Mais effectivement, on a le temps pour interroger un petit peu plus en profondeur la personne qui est devant nous et poser des questions de fond qui ne sont pas un QCM, comme vous le dites. Mm-hmm. Mais à un moment, il faut quand même obtenir des réponses aux questions qu'on pose. C'est aussi ça, la démocratie. C'est aussi qu'on ait débusqué les gens pour savoir, à la fin, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non.
Alors, autre tendance du moment, c'est le quasi-contre-pied, une poussée inédite, à mon avis, dans l'histoire du PAF et même du journalisme politique, de l'intime. De l'intime, où Jean-François Copé, après l'affaire Big Malion, fait-il son retour en politique ? Sur le divan de Marc-Olivier Fogiel.
J'ai vraiment pensé que votre émission était sans doute la, je dis même pas la meilleure, la seule, en fait, qui le permette. Le système médiatique est ainsi fait, il a beaucoup de qualités par ailleurs, que c'est un système dans lequel on est dans la frénésie du moment, dans l'hyperactualité, il faut toujours avoir un avis sur tout. J'étais très fort d'ailleurs, moi, pour ça, j'étais capable d'avoir un avis sur tout, tout le temps.
c'est extraordinaire, parce que là, on reboucle la boucle de ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est une mise en abîme.
Il est merveilleux, cet extrait. Donc, Copé, Hidalgo, Mélenchon sur le divan de France 3. Karine Le Marchand, est-ce que vous connaissez Karine Le Marchand, Jean-Michel
Oui,
Apathy.
Je connais Karine Le Marchand. L'amour est dans le pré.
L'amour est dans
M6,
le pré.
Pour M6, elle va faire. Mais
alors attendez, pour M6, elle va interviewer les candidats sur leur histoire, leur intimité. On a appelé M6 pour savoir s'ils avaient été nombreux à répondre à l'appel.
Tous ont répondu.
Fillon, Sarko, Mélenchon, Montebourg, Le Pen, Le Maire, Bayrou, c'est déjà fait. La liste est vouée à s'allonger.
C'est normal, mais là.
C'est normal.
Oui, bien sûr. Normal. Si vous prenez juste cette émission, vous pouvez la critiquer, mais c'est une offre globale. Un personnage public est appelé à parler de lui à certains moments, pas de l'actualité, pas des dossiers, mais de lui à certains moments. Donc ces émissions servent à ça. Est-ce qu'elles sont utiles à la démocratie d'une certaine manière? Oui. Elles ne sont pas indispensables, mais elles sont utiles. C'est intéressant de voir comment un personnage public qui a l'ego un peu déformé par le miroir devant lequel il vit en permanence, parle de lui. Il y a aussi des éléments d'information dans
Gilles
ces
Bernstein.
Émissions-là.
Bah, vous me surprenez beaucoup. C'est intéressant.
Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel.
Je suis heureux de vous surprendre.
C'est une année assez particulière. C'est une année présidentielle. En mai, on va élire un président ou une présidente. On élit un programme, on élit aussi quelqu'un. C'est pas totalement indifférent de savoir qui on élit, d'où il vient, ce qu'il pense, ce qu'il a fait,
quel
etc.
Quel rapport il avait avec son papa, sa maman.
Non, mais en plus, on se rend compte que les tempéraments personnels ont une incidence politique. Le fait que Nicolas Sarkozy soit un petit peu plus agité que la moyenne, ça a eu des conséquences
politiques.
Est-ce
que vous
ne
pensez pas que cette petite musique transforme peu à peu l'attente du public, qu'elle transforme peu à peu les jugements et les critères de jugement qu'on applique à un président de la République?
Je ne pense pas. Je pense que nous sommes dans des pays, parce qu'on ne peut pas dire cela que de la France, qui sont éduqués, qui ont un rapport maintenant un peu ancien avec la démocratie et qui savent distinguer les temps. C'est-à-dire être attentif aux messages de fond, et savoir regarder à des moments le pas de côté que peuvent faire les personnalités publiques.
Je vous pose la question
autrement.
Qu'est-ce qu'on en a à cirer, vraiment, de savoir qu'un homme ou une femme politique est quelqu'un de sympathique, de bon, que c'est un bon papa, que c'est un bon mari, que ça a été un bon fils à sa maman? Ça n'en fait en rien quelqu'un qui a une vision pour la France. Vous me l'accordez au moins?
On n'en a rien à cirer.
Rien.
En même temps, ça n'est pas inutile et au final, ça ne déplace pas une voix.
Très bien.
Voilà.
Et ça n'a aucune incidence sur l'évolution du questionnement politique.
Le résultat électoral, je ne crois pas. Ah, sur le questionnement, non, parce que nous, par exemple, nos questions, on ne les détermine pas par rapport à ça. Que les responsables politiques fassent Karine Le Marchand, ça ne va pas nous influencer, nous, dans le questionnement qu'on aura vis-à-vis d'elle.
Et d'ailleurs, qui interviewez-vous demain à 8h30 sur France Info, sur le canal 27, car oui, la chaîne sera lancée et elle sera également sur le web et également
elle est déjà sur le web
de la radio France Info.
François Fillon, avec cette question importante.
C'était
comment
Karine Le Marchand, c'est ça. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy, Gilles Bernstein. On vous retrouve évidemment demain matin. C'est la fin de l'Instant M.